Et tout de suite, les infos.
Informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga, 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, un nouveau report dans l'élection du président de la CENI. Elle aura lieu lundi prochain si les différents acteurs se mettent d'accord. Hier, 6 commissaires dont 5 de l'opposition ont boycotté la dite élection. Manifestation hier à Sabah sur la gestion du foncier. Plusieurs personnes ont manifesté à Ouaga pour exiger l'audit de l'attribution des parcelles dans le village de Kalsin, appelé zone Sonature. Galion 2021, la cérémonie de récompense de la meilleure œuvre journalistique n'a pas enregistré de Super Galion cette année. Néanmoins, d'autres prix ont été décernés, notamment à notre collègue Bourema Badini d'Omega Bobo. La rencontre entre le président du Faso et les différentes composantes de l'armée est le sujet de notre éditorial ce vendredi. Enfin, notre invité du jour est Pisiamba Ouédraogo, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Il se prononcera, entre autres, sur la visite inopinée du ministre de la Santé au CHR de Kudougou et la vaccination contre le Covid-19. Interview à suivre en fin d'édition. Six commissaires dont 5 de l'opposition ont boycotté l'élection du président de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, qui devait avoir lieu hier. Après un premier report, l'élection du président et du vice-président de la CENI n'a pas eu lieu. L'élection a de nouveau été reportée. Le ministre de l'administration territoriale annonce la tenue de l'élection pour le lundi 19 juillet. Retour sur l'ambiance à la CENI avec Gilles Dasta.
Pour connaître le nouveau président de la CENI, il faudra encore patienter jusqu'à lundi au moins. La cause, l'élection du successeur de Newton Ahmed Barry prévue ce jeudi, a tourné court. Cette élection devait permettre de connaître les principaux dirigeants de la structure en charge de l'organisation des élections au Burkina. Clément Sawadogo est le ministre de l'administration territoriale.
Nous avons donc convoqué de manière réglementaire la séance de cet après-midi. Nous avons constaté que 9 commissaires ont répondu présents et que 6 commissaires ne sont pas venus.
Le tollé de l'opposition quant à la candidature du Sao Naba pourrait expliquer l'absence des 6 commissaires, dont certainement les 5 de l'opposition. Ce deuxième report des votes se fait dans l'objectif d'éviter un dialogue de sourds entre les différentes parties prenantes de la CENI.
Que nous évitions ainsi aussi des crises institutionnelles dont notre pays n'a pas besoin dans les situations, dans le contexte que nous connaissons tous. Je réitère cette invite, cet appel à la classe politique en particulier, mais aussi à toutes les autres composantes pour que ce dialogue se renoue plus vite, que des concertations puissent être menées au niveau où ça doit être afin qu'une issue heureuse soit trouvée.
Et on n'en saura pas plus sur ce qui adviendrait lundi prochain en cas de nouvel échec. La CENI compte 15 commissaires, dont 5 de la majorité, 5 de l'opposition et 5 autres issus de confessions religieuses, des coutumiers et des OSC. Ce savant mélange avait justement pour but d'éviter de telles situations au sein de la structure.
Sur cette élection du président de la CENI, le chef de file de l'opposition politique avait déclaré qu'il ne siégera pas tant que Bonaventure Ouédraogo n'est pas remplacé. Le CFOP reproche au candidat désigné par la chefferie coutumière au titre de la composante société civile d'être un militant du parti au pouvoir. Il estime que Sao Naba ne saurait diriger l'institution en toute neutralité. Autre question qui ne fait pas l'unanimité, c'est la gestion du foncier dans la ville de Ouagadougou. Le mouvement des jeunes pour la transparence de gestion foncier de Saba n'est pas content. Il a manifesté hier matin pour attirer l'attention du ministère de l'Habitat. Le mouvement demande l'audit de l'attribution des parcelles dans le village de Kalsin, appelé zone sous nature. Reportage Romain Wanry.
Les manifestants demandent au ministère de l'Habitat l'audit de la gestion foncière de la commune. Ils disent avoir mené des investigations sur cette gestion et ont découvert des manquements. Malik Ouedraogo est le président du mouvement.
Les investigations et les renseignements auprès des propriétaires terriens, les membres de la commission ad hoc pour le recasement dans le cadre du projet Sonatu et autres acteurs nous ont permis de déceler des cas flagrants de mauvaise gestion, indignes d'une période post-insurrectionnelle.
Pour les propriétaires terriens, la Sonatu s'est accaparée d'une superficie qui dépasse ce que l'État lui avait attribué. Leur porte-parole, Jean-Pascal Saint-Pourri.
Depuis 2002, où l'État avait donné à la Sonatu une superficie de 150 hectares. La superficie est toujours posée. Aujourd'hui, la Sonatu vient pour exproprier nos terres, soit disant que l'État l'a donné, voilà, une superficie de 240 hectares. Nous avons tenu une rencontre dans la salle des fêtes où nous avons demandé à la Sonatu de nous envoyer les preuves. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, aucune preuve nous est montrée pour prouver effectivement que la Sonatu devait avoir une superficie de 240 hectares.
Pour les résidents de Kalsin, communément appelés zone Sonatu, les autorités sont restées sourdes face à la situation. Zakaria Yaou est leur porte-parole.
Une énième fois dénoncer le silence des autorités qui regardent toujours les biens immobiliers de la population de Kalsin et nous dénonçons cela parce que la terre appartient à tous les résidents.
Les manifestants prévoient d'autres mouvements s'ils n'ont pas trouvé de réponse à leurs revendications.
Sanctions contre le chef du service des urgences du CHR de Kudougou, c'est un abus selon Pissiamba Ouedraogo, secrétaire général du SINCHA. Rappelez-vous, suite à la visite inopinée du ministre de la Santé le week-end dernier à Kudougou, le chef du service des urgences médicales du CHR a été relevé de ses fonctions parce que absent de son poste, une sanction considérée comme un abus selon le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Suivez les explications de Pissiamba Ouedraogo.
Pour ce qui est de la situation à Kudougou, c'est un abus parce que l'autorité aurait pu utiliser la voie administrative pour lui demander les raisons pour lesquelles on n'a pas vu les agents sur le terrain. Et les réponses qu'il a fournies publiquement auraient pu être données. Mais on a rendu public, on a jeté en pâture à l'opinion les agents sans chercher à voir dans le fond quelles étaient les motivations possibles. Avant d'en parler, il aurait fallu les interroger pour savoir pourquoi vous n'êtes pas là. Si tant est vrai que l'on veut effectivement lutter contre les agents indélicats.
Pissiamba Ouedraogo, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, est notre invité du jour. Vous l'entendrez plus longuement en fin d'édition et dans nos prochaines éditions. Hier 15 juillet, c'était les 5 ans du coup d'État manqué en Turquie, lequel avait visé le président Erdogan et provoqué la mort de 251 personnes. À l'occasion, l'ambassade de Turquie au Burkina a organisé une journée de commémoration des martyrs. Le compte-rendu de Elisabeth Yanogo avec la voix de Kader Konaté.
À la date du 15 juillet 2016, une organisation terroriste de Fethullah Gulen a tenté de renverser le régime constitutionnel de la République de Turquie. Cette tentative de coup d'État a causé la mort de 251 personnes et occasionné 2196 blessés. L'ambassadrice de la République de Turquie au Burkina a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances au peuple burkinabé suite aux nombreuses attaques terroristes. Elle a aussi rappelé le soutien indéfectible de son pays au Burkina dans la lutte contre le terrorisme. Cette journée du 15 juillet 2016 est un douloureux souvenir qui reste gravé dans la mémoire des Turcs vivant au Burkina. Ils saluent l'initiative de l'ambassadrice, laquelle leur permet de rendre hommage à ceux qui ont trouvé la mort en défendant la démocratie en Turquie. Les hymnes du Burkina Faso et de la République de Turquie ont marqué le début de cette commémoration. Tous ont eu une pensée pieuse pour les martyrs de la Turquie et du Burkina qui ont perdu la vie en défendant leur patrie.
Et la 22e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État s'est tenue hier à Ouagadougou, une cérémonie marquée par la présentation d'un rapport du secrétariat sur la gestion des EPE. Ce rapport fait ressortir l'état de la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la 21e session. Le rapport chute par des perspectives pour une meilleure gestion des EPE qui prennent en compte la qualité des services rendus aux usagers publics. Compte rendu Valérie Guéry et Jacob Compaoré.
Les états financiers de tous les 112 établissements publics de l'État ont été approuvés à l'issue de cette Assemblée générale. 4 structures ont néanmoins été épinglées et ont été sommées de s'expliquer, et le Fonds spécial routier du Burkina, une injonction. La ministre déléguée chargée du budget relève quelques difficultés que les établissements publics de l'État ont rencontrées en 2020. Edith Clémence Yaka, ministre déléguée chargée du budget.
Avec le contexte que nous avons connu en 2020, qui était quand même un contexte assez difficile, ils ont fait preuve d'une certaine résilience parce que leurs recettes même propres ont un peu évolué malgré tout ce contexte-là. Globalement, nous sommes satisfaits. Mais un petit pincement au cœur au niveau des fonds nationaux de financement où la qualité des portefeuilles des clients n'est pas très bonne.
Des recommandations ont été faites pour permettre aux entreprises d'être plus performantes. Les participants repartent plus motivés et prêts à relever les défis. Djibrilou Kolongo, participant.
Il y a eu de l'amélioration du point de vue recherche, du point de vue gestion. Les EPE doivent donc travailler à améliorer donc la qualité du service offert donc aux usagers.
Rendez-vous est pris en juillet 2022 pour une nouvelle assemblée générale. Dans un an donc, les participants réfléchiront sur la problématique du contrôle interne et la dématérialisation des services dans les établissements publics de l'État.
Et puis Galion 2021, comme annoncé en titre, l'édition cette année n'a pas enregistré de Super Galion, a informé Aissata Sankara, présidente des jurys des Galions 2021 lors de la nuit des récompenses hier soir. Aucune œuvre proposée n'a obtenu la note minimale de 17 sur 20, a regretté Aissata Sankara au micro de Pierre Badolo.
L'édition 2021 n'enregistre pas de Super Galion, malheureusement. En effet, aucune œuvre proposée n'a obtenu la note minimale de 17, comme stipulée dans le règlement intérieur du concours. Nous fondons l'espoir que plus d'émulation et d'engagement permettront de décerner le super gagnant à la prochaine édition pour célébrer l'excellence dans la profession.
Le prix Super Galion récompense la meilleure œuvre journalistique de l'année écoulée au Burkina cette année. En plus du trophée, une villa d'une valeur de 20 millions de francs CFA et un chèque de 3 millions étaient en jeu. Néanmoins, plusieurs autres prix ont été décernés, notamment à notre collègue Bourema Badini, directeur de Omega Bobo, qui a reçu le prix spécial protection de l'enfant décerné par l'ONG Compassion Internationale. Suite à sa décision de prendre en main le ministère de la Défense, Roch Kaboré était au contact des hommes et femmes de cette institution sous les feux de l'actualité depuis la montée de l'insécurité au pays des hommes intègres. Critiqué, applaudi, sollicité sur tous les fronts, les performances et contre-performances de nos soldats alimentent les conversations partout, ce qui pourrait être une simple prise de contact entre un ministre de la Défense et ses administrés est bien plein de symboles, c'est ce que nous décortique Ouézin Louis Houlon dans l'éditorial de la semaine.
Roch Marc-Christian Kaboré, en double manteau pour échanger directement avec la troupe. Président du Faso, par ailleurs ministre de la Défense, la troupe et le commandement ont été servis en solennité. Si doute il y avait, le président du Faso a brisé la glace, comme pour dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire et il n'y en aura plus entre vous et moi. Les Lakourous se sont défoulés. Les sergents se sont libérés, les adjudants se sont exprimés, les lieutenants, les capitaines et les commandants ont échangé à bâton rompu avec le commandant en chef du pays. Les colonels et les généraux ont parlé à l'oreille du chef, même si on peut émettre des doutes sur l'efficacité même de ce dialogue direct sur le long terme. Le risque est en effet grand de voir un soldat narguer désormais leur chef et demander à la moindre crise à voir le président du Faso. Mais bref, que se sont-ils dit? La question de la discipline des hommes dans sa verticalité et son horizontalité a été naturellement abordée. L'argent, nerf de la guerre, aura retenu les attentions à ce conseil de guerre. La troupe voudrait plus de CFA face aux risques encourus, mais plus complexe encore, les hommes affectés au front, comme les gendarmes en fonction dans les brigades des zones dites rouges, ne courent-ils pas les mêmes risques, voire plus que leurs collègues venus de Ouaga, et donc ne méritent-ils pas de toucher des primes eux aussi? Sur l'équipement, ce fut sans doute le grand déballage. Linge assez sale pour être lavé dehors, mais au moins, le président du Faso a bien été briefé. Mais aussi, on espère qu'il a eu à son tour l'occasion de leur cracher ses vérités, de leur traduire le mécontentement des populations devant l'immobilisme de la troupe dans des drames comme Solhan et Kodiel, pour ne citer que ces deux situations. Le président du Faso leur a-t-il signifié que quantitativement et qualitativement, le rapport en équipement et en ressources humaines est en faveur de l'armée régulière? En tout cas, la partie d'en face n'a ni char, ni avion, ni orgue de Staline. Et sur le plan humain, au mètre carré, nous avons les hommes les plus formés, aptes au métier de la guerre, qui ont fait les plus grandes écoles et bases militaires de cette planète. Saint-Cyr en France, Meknès et Agadir au Maroc, Ansirabe à Madagascar, les bases militaires de Huchuca dans l'Arizona et de Fort Benin dans l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. L'Allemagne, le Nigeria, la Chine ont formaté des hommes rompus au maniement des armes et aux stratégies de guerre qui ne devraient trembler devant des groupes armés à moto, furent-ils hommes armés non identifiés. On est tenté de croire que là où nos hommes sont battus, c'est bien dans l'audace et l'anticipation. Le président Kabore a-t-il pu leur dire qu'il ne comprend pas? Leur a-t-il dit que le peuple burkinabé a une histoire héroïque à défendre et à préserver? Si le Burkina a fait l'option de refuser une base militaire étrangère sur son sol, c'est salutaire, mais encore faut-il assurer son intégrité territorial.
Omega Sport. Après l'édito de Ouézan Louis Houlan, on enfile nos baskets pour l'actualité sportive avec Bernabé Cabré.
Bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité sportive. En pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe Espoir de Côte d'Ivoire a reçu mercredi la visite du ministre des Sports. Il a mis fin à la polémique sur les primes en apportant un chèque de 57 millions de francs CFA correspondant au montant de la prime de qualification à se partager. Le ministre ivoirien des Sports a aussi dévoilé les primes d'objectifs. Si les éléphants remportent le tournoi de football des Jeux Olympiques, chaque joueur recevra 10 millions de francs CFA. Notons que le sélectionneur ivoirien a fait appel à 3 jockeys de luxe pour renforcer son effectif. Max-Alain Gradel, nommé capitaine, Franck Kessier et Eric Bailly. Notons que la Côte d'Ivoire est logée dans le groupe D avec le Brésil, l'Allemagne et l'Arabie Saoudite. Deux autres pays représenteront le continent africain. L'Afrique du Sud, logée dans le groupe A avec le Japon, le Mexique et la France, et l'Égypte logée dans la poule C en compagnie de l'Espagne, l'Argentine et l'Australie. Le tournoi de football des JO est réservé aux moins de 23 ans, mais avec la possibilité de faire participer 3 joueurs de plus de 23 ans. Dépossédé de son titre de champion du Maroc par le Raja de Casablanca, la saison écoulée, le WAC de Casablanca reprend son bien. Vainqueur du MC Oujna 2-0 mercredi dernier, les hommes de Faouzi Benzarti ont mathématiquement assuré la première place du championnat avec 11 points d'avance sur le Raja à 3 journées de la fin. Ils décrochent ainsi le 21e titre de champion du Maroc de leur histoire, loin devant le Raja qui l'a remporté 12 fois. Le WAC sauve ainsi sa saison ternie par l'élimination surprise face au Kaizer Chiefs en demi-finale de la Ligue africaine des champions. Ariane Robben raccroche définitivement les crampons. Sortie de sa retraite en 2020 pour rejoindre le FC Groningen, son club formateur, l'ailier néerlandais a décidé de dire stop après une saison minée par les pépins physiques. Robben met fin à sa carrière riche en trophées puisqu'il a remporté 8 fois le championnat d'Allemagne et une fois la Ligue des champions avec le Bayern de Munich, un titre de champion d'Espagne avec le Real et 2 titres de champion d'Angleterre avec Chelsea. Mercato à présent en quête d'un attaquant après le départ de Sergio Aguero, Manchester City a fait d'Harry Kane sa priorité. Problème, Tottenham ne compte pas lâcher facilement son buteur. Le champion d'Angleterre réfléchit donc à un plan B en cas d'échec sur le dossier Harry Kane. Ce plan B se nomme Robert Lewandowski car plusieurs médias anglais annoncent que le Polonais est dans le viseur des Citizens qui font le forcing pour l'arracher. Robert Lewandowski a encore 2 ans de contrat avec le Bayern et la direction bavaroise n'est pas ouverte à un départ de son attaquant qui a marqué 48 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues la saison écoulée. Olivier Giroud sera bien un joueur du Milan AC la saison à venir. Le club italien a confirmé l'arrivée de l'attaquant français qui évolue à Chelsea sous contrat jusqu'en 2022. Le champion du monde 2018 va rejoindre l'Italie dans le cadre d'un transfert estimé à 2 millions d'euros. Il y signera un contrat de 2 ans.
L'invité de la rédaction.
Pisiomba Ouedraogo, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, est notre invité du jour. Il se prononce entre autres sur la visite inopinée du ministre de la Santé au CHR de Kudugu.
Pisiomba Ouedraogo, bonjour.
Bonjour.
Dans quelles conditions les agents de santé travaillent, surtout en cette saison des pluies, où les personnels de santé sont très sollicités?
Les agents de santé, sans distinction de saison, éprouvent des difficultés. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Lorsqu'on va du CSPS au centre médical avec antenne chirurgicale, au centre hospitalier régional, jusqu'au centre hospitalier universitaire, à tous les niveaux, panne de l'essentiel de l'équipement médico-technique. Le personnel. En plus, il y a des spécialistes qui, ces dernières années, ont été affectés dans les CHR sans que l'équipement adéquat pour travailler les suive. Il y a maintenant l'insuffisance même de personnel, que ce soit au CSPS, à tous les niveaux.
Et où en êtes-vous avec votre plateforme revendicative?
À propos de négociations, nous étions en train de traiter avec le gouvernement depuis novembre 2019 jusqu'au 5 mars 2020. Silence total.
Et est-ce que vous les avez relancés?
Oui. Au sortir du grand pic du Covid-19 en mai 2020, nous avons écrit au gouvernement pour demander la suite ou la reprise de ces négociations. Bon, on n'a pas eu satisfaction.
Il n'y a pas eu de réponse ou pas de satisfaction?
Je dirais qu'il n'y a pas eu de réponse. Dans la mesure où les négociations se passaient avec une délégation gouvernementale, pas le ministère seulement de la Santé. Et ces négociations ne se sont pas achevées jusqu'à ce que le 9 mars 2020, on dise qu'il y a le Covid et tout est arrêté. Alors donc, ce que nous avons exigé en mai 2020, c'était la reprise des négociations. On avait même conclu en janvier 2020 un chronogramme de mise en œuvre de nos préoccupations. Et tout ceci-là est dans l'impasse.
Comme vous avez parlé de Covid-19, que pensez-vous de la controverse sur le vaccin AstraZeneca, même si vous n'êtes pas un spécialiste en la matière?
En fait, en matière de médicaments ou de vaccins, ce sont bien sûr des fruits de la recherche. Mais la question que nous nous posons, si le Burkina a des références pour prendre position sur les controverses scientifiques qui se déroulent dans le monde. Donc, de ce point de vue, pour nous, au niveau du syndicat, nous pensons qu'il est important d'être prudent en la matière. Et même si nous avons les capacités, n'est-ce pas, de contrôler un peu la nature, les conséquences éventuelles, nous, on pense qu'il faut
être prudent. Quand vous dites être prudent, c'est-à-dire
Ça veut dire qu'il faut quand même ne pas se précipiter dans les vaccinations ou même dans le choix de n'importe quel médicament si on n'a pas l'assurance des choses. Alors, le vaccin qu'on a fait chez nous en Europe, il y a des controverses là-dessus. Alors, qu'est-ce que le gouvernement nous dit? Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou pas? Voilà les questions que nous nous posons.
Toujours au sujet de la vaccination, le corps médical est prioritaire. Avez-vous reçu votre dose?
Non, moi je ne me suis pas encore vacciné. Je pense que je suis toujours en train de suivre l'évolution, n'est-ce pas, de la question.
Qu'est-ce que vous pensez maintenant de la visite inopinée du ministre de la Santé dimanche à Kudugu et à Rio, qui a constaté qu'il n'y avait aucun médecin pour la permanence?
C'est un abus, parce que l'autorité aurait pu utiliser la voie administrative pour lui demander les raisons pour lesquelles on n'a pas vu les agents sur le terrain. Et les réponses qu'il a fournies publiquement auraient pu être données. Mais on a rendu public, on a jeté en pâture à l'opinion, n'est-ce pas, les agents, sans chercher à voir dans le fond quelles étaient les motivations possibles. Donc, de mon point de vue, il a été sanctionné parce que, justement, l'autorité aurait pu chercher ces raisons-là avant de rendre public son constat. Parce que ce qui s'est passé n'est qu'un constat. On est venu, on n'a pas vu les médecins. Mais la raison, c'est quoi?
C'était notre invité Pissiomba Ouedraogo, secrétaire général du SINCHA. C'est avec lui que prend fin ce journal réalisé par Fidèle Compaoré. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programmes sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.